Donc Alex, ton film a été diffusé hier dans la salle polyvalente avec beaucoup de monde, beaucoup d'émotions. Ça a touché beaucoup les gens. On va refaire un peu le pitch du film pour ceux qui l'ont pas vu. Il sera diffusé à la télévision en fin d'année. Pour le revoir. Gérard ou Johan, qui voulait parler un peu du film, ou je laisse Alex vous en parler, mais qu'est-ce que vous voulez?
Oui, je trouve que c'est intéressant que ce soit Johan qui parle.
Donc moi j'ai vu le film hier. C'est un film assez complexe, très bouleversant. Ça part en fait de l'histoire personnelle d'Alex Boukine, donc la réalisatrice du film, sur un drame dans sa famille, comment un membre de sa famille a fini par mourir dans la rue et comment il est venu à ça. Mais le film est plus complexe que ça et en fait alterne un petit peu un flashback avec des témoignages sur comment son oncle et en est venu à aller dans la rue et à dormir dans la rue et à mourir dans la rue avec des liens avec des personnes qui dorment dans la rue actuellement et leur processus de marginalisation progressive. Donc c'est un petit peu un lien entre passé, présent. Voilà, je sais pas si... Moi je l'ai compris comme ça. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur ton film.
Sur le film et sur l'accueil que tu as eu hier, comment ça s'est passé, comment tu as vécu la projection l'échange avec le public.
Bien.
Voilà. Non, vraiment, on parle des films.
Sur le film.
Dimanche matin, c'est un peu dur. Mon film, je suis toujours un peu. Pas embêtée, mais c'est quand même un film juste absolument déprimant. Ça m'embête toujours un peu d'imposer ça aux gens. Donc j'ai trouvé que les gens étaient très... Enfin, le public était super. Puis je voyais qu'ils étaient en train de fondre devant moi, par mesure que je parlais.
Ils faisaient un peu de la chaleur. C'était donc, notre recette pour
la minceur.
Voilà. On revient toujours à l'essentiel.
Et donc, non, j'ai trouvé que c'était super. Après, c'est vrai que les débats, enfin les rencontres après sont un peu souvent déprimantes parce que c'est tellement...
Y a pas c'est étrange que tu m'apprends pas de... C'est étrange que tu... Alors, ou tu es maso, c'est-à-dire que tu as fait un film déprimant et tu vas le défendre dans les festivals. Mmh. D'accord. Okay. Mais c'est étonnant que tu qualifies ton film de déprimant parce que moi, je trouve qu'il n'est pas déprimant. Je fais partie du comité qui l'a sélectionné. Et quand on l'a vu, on l'a trouvé tellement beau, déjà, et tellement sensible, tellement touchant, mais pas déprimant. C'est-à-dire que... Sinon, comme disait Chantal hier soir, on sait que les gens dans la rue, enfin on sait, oui, on n'a pas appris grâce à ton film que les gens dans la rue sont des gens comme nous, quoi. Et ça peut être déprimant si on vit chez une bisounours, oui, mais alors apparemment non. Et c'est, on n'a pas du tout, enfin quand on est dans nos discussions pour savoir si on sélectionne ou pas, et je t'avoue qu'on l'a sélectionné très rapidement. On ne s'est pas posé 10 000 questions. Il n'y a pas eu le terme déprimant qui est du tout sorti, quoi. Au contraire, il y avait une justesse, une tendresse vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de ces deux personnages que tu suis, Joe et Bart. Et aucun pathos, mais une empathie vraiment forte, quoi. Il n'y a pas eu de déprime du tout. Donc rassure-toi.
Bon, attendez, si... Mais non,
tu vas pouvoir en parler.
Oui, non, je pense que c'est aussi parce que c'est moi en fait que ça déprime, je crois. C'est à chaque fois, quand à la fin, je vois la mémoire de Joe, ça me... Enfin, quand on est dans un film, on le fait, on est dans le truc, on travaille beaucoup, c'est beaucoup d'énergie. Et donc on est dans la fabrication. Et en fait, maintenant, ça fait 2 ans que j'ai fini ce film. Et c'est bizarre parce que souvent quand je suis dans la rue, je cherche encore Joe. Je me dis tiens, je vais le voir, mais finalement je ne vais pas le voir. Et en fait, je crois que c'est juste ce film finalement qui décrit. C'est 3 ans de ma vie. Après, je sais que c'est un peu cliché, mais vraiment, c'était des gens que j'aimais beaucoup et Joe particulièrement. Donc je sais pas, c'est mon... Voilà, c'est ma vie. Enfin, c'est la vie, hein, mais... Oh, c'est dimanche matin, je suis désolée.
J'ai plus de blagues,
il n'y a aucun lien. Mais oui, moi je trouve que c'est quand même un film un peu intense, quoi.
Oui,
tu
oui,
vois
oui,
intense. Souvent à la fin des projections, il y a 2 minutes où les gens parlent plus. Je pense que c'est quand même... C'est un peu pompé mon expression, mais ça remet en humanité dans le sens où tout d'un coup on se dit « Ah, oui, je suis un peu plus fragile peut-être que... » Enfin, voilà, ça
ouais, pose la question de notre fragilité. Au courant, mais c'est salutaire aussi. C'est salutaire. Et c'est... nous, on a envie que ce festival... Enfin, ce festival est là pour qu'on puisse se taire 2 minutes. Et qu'on puisse digérer et intégrer ce qu'on vient de voir, que ce soit sur ton thème, sur le thème de la guerre demain et des autres thèmes en fin de semaine. Mais je pense que Résistance, c'est un espace de réflexion et de pause. Oui. Pendant 2 minutes, on intègre. Et c'est, encore une fois, c'est salutaire, il n'y a rien de déprimant dedans. Sinon, oui, la vie est déprimante. Mais non. À part vivre chez Bisonos, mais il n'y a plus de visa disponible.
En plus, ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu parles d'émotion, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est quand tu parles d'émotion, en effet, tu as trouvé l'émotion parce que tu avais 3 ans pour vivre ce film. Mais moi, là où j'étais plus émue, c'est les témoignages de la famille, en fait. Hein, quand la tante parle, quand la famille parle, parce que vraiment, là, il y a d'abord y a une sincérité énorme. On voit qu'il y a une économie de parole, mais ce qui est dit est très intense. Donc, à la limite, je verrai plus ça, puisque. L'autre regard, il y a eu déjà des films sur les gens, les SDF, etc. Donc à la limite, on pourrait dire que c'est un film qui nous montre les gens dans la rue. Et je trouve que, en plus, par rapport à ce que tu avais dit hier pendant la conférence de presse, que tu as commencé d'abord par un travail de filmer les gens dans la rue, et la famille après. Or nous, dans le film, on rentre directement dans le témoignage de la famille. Donc tu as totalement inversé, le montage aussi transforme la perception qu'on peut avoir, nous, de ce que toi tu as vécu.
Parce que je pense qu'en fait, j'ai commencé à faire ce film pour ma famille. C'était un peu, disons, faire de la psychologie de comptoir.
C'est dimanche.
C'est dimanche.
Je pas d'hôtel. Ouais.
Je crois que c'était une façon, une certaine... Enfin, je pense que beaucoup de gens critiquent les films thérapeutiques en disant on fait pas des films pour faire une thérapie. Sauf que ça prend tellement d'énergie de faire un film, ça prend tellement de temps. Que je ne vois pas pourquoi on la ferait autrement que pour guérir de quelque chose, même si ça n'est pas encore conscientisé. J'ai l'impression que j'ai fait ce film parce que j'ai essayé de faire le deuil que mon père ne pourra jamais faire. Peut-être qu'il est en train de qu'il ne peut pas faire en ce moment. Et du coup, je pense que l'origine du film est donc familiale. Mais après, c'était aussi parce que c'était l'origine du film que c'était le plus compliqué à faire.
Excusez-moi pour l'interprète, juste est-ce qu'on peut revenir sur la dernière idée.
C'était un film familial.
C'était
un film pour le deuil.
Oui, d'une certaine façon, à travers ce film, j'ai essayé de faire le deuil que mon père ne pourra pas faire, le deuil de son frère. Mais que du coup, c'était hyper compliqué pour moi d'aller. De contacter ma famille, de les appeler, de leur demander de parler d'un truc dont personne n'a envie de parler. Enfin, normal. Enfin, et du coup, ce qui est assez drôle, pour dire autre chose, c'est que, enfin, c'est pas drôle, mais en ce moment, j'écris, donc je suis produite pour écrire une fiction. Et la fiction, en fait, est sur la partie du film qui n'a pas pu être filmée. C'est l'histoire d'un type qui est chauffeur de bus et qui voit passer devant lui un clochard. Et le type blémit, le chauffeur de bus, il commence à chercher partout ce clochard dans Paris. Et en fait, il le retrouve et c'est son frère qu'il n'a pas vu depuis 8 ans. Et il essaie de le sortir de la rue. Et parce qu'il n'arrive ni à sortir de la rue, ni à l'y laisser seul, il finit par aller et par tomber avec lui dans la rue. Et donc, c'est l'histoire de son frère. Voilà. Donc, c'est en fait ce que j'ai pas raconté de l'histoire de mon père. C'est en fiction que ça va se faire. Parce que mon père ne pourra jamais, je pense, et digérer le truc et parler de ça. Enfin, je pense que autant je crois que la parole, la psychanalyse de prouve, peut être vraiment libératrice, autant je pense que chez certaines personnes, elle peut tuer. Et je pense que mon père, c'est vraiment le cas. Pendant tout le film, j'avais peur qu'il se tue, quoi. J'avais peur que ce soit trop
insupportable.
Je passe ce film insupportable pour lui.
Oui, mais pour nous, spectateurs qui recevons ce film-là, on ne fait pas partie de la famille intime, mais on fait partie de la famille des humains. Et on voit cet album de famille ouvert. Et justement, d'habitude, on a un regard un peu fuyant sur les gens de la rue. On voudrait ne pas les voir, peut-être. S'il y a beaucoup d'associations, d'individus qui s'occupent d'aider, je ne sais pas comment on peut aider réellement, efficacement. En ouvrant cet album-là, on se rend compte que les gens de la rue sont comme toi et moi. Ils ont eu aussi un passé, une enfance. Et avoir du Super 8 tout d'un coup qui fait émergence dans cet album de famille, dans le fil du récit, on est dans un moment d'innocence comme on l'a tous plus ou moins été, à un moment donné, un anniversaire, souffler les bougies, etc. Et on repart avec ça pour voir la suite du film. Ça nous a, d'une certaine façon, rechargé en humanité.
Mmh. Ouais, c'est drôle, avec les Super 8, c'est... On a tous les mêmes Super 8, on a tous les mêmes dîners de famille, et à la limite, c'est quelque chose qui me frappe à chaque fois que quelqu'un me montre des Super 8 ou des images de famille. C'est qu'on a l'impression qu'on pourrait presque interchanger les personnes, c'est toujours la même situation, les mêmes rires, les mêmes gens qui s'ennuient, les mêmes conflits larvés, qu'on sent un peu, voilà. Et ça faisait, je me disais que c'était une façon de mettre ces films de famille, même si c'est un peu, c'est très personnel et j'ai longtemps réfléchi pour les mettre, parce que quand même j'expose beaucoup ma famille, c'est une question, hein. À quel point on expose des gens qui n'ont pas forcément envie d'être. C'est en ça, genre, le film a une certaine violence quand même, même si je pense qu'il n'y a pas de tendresse, mais bon, je trouve quand même, voilà. J'avais envie, en fait, en montrant ces films-là, de dire que ben on ne naît pas dans la rue, que les gens qui sont nés dans la rue ont passé 9 mois dans le ventre d'une femme, qui ont été a priori aimés, qui ont rêvé comme tout le monde d'être pompier ou d'être policier ou cow-boy,
princesse.
Ah, après, le film ne parle pas trop pas des femmes dans la rue. C'est
avec les femmes, c'est la mais...
Il y en avait, en fait. Mais en fait, j'ai 90 heures de rush. Voilà. Il y avait, je crois, 4 heures avec ma famille. Il devait y avoir 4-5 heures à Nanterre ou dans le bus, voilà, dans des endroits un peu comme ça. Et puis après, il y avait 80 heures avec Joe et Bart et leurs amis. Donc dans l'eau, il y avait des femmes. Sauf que le film pouvait pas, à un moment donné, on s'est posé la question de faire presque une série documentaire. Parce que Joe et Bart, il y avait tellement de trucs bien avec eux, c'était tellement drôle, c'était tellement surprenant, il y avait tellement de situations avec leurs copines et tout. Il y en a une qu'on aperçoit à un moment donné à la fin du film, là, qui boit une bouteille de vin au goulot. Et Bart lui dit « Oh, c'est pas bon ce que tu bois, Cathy. » Elle dit « J'en ai rien à foutre, ça se voit. » Cathy, elle était géniale. Elle pensait qu'elle avait à New York, il y avait 1 million de dollars qui l'attendaient. Elle était complètement... Puis elle était super, elle était hyper amoureuse de Joe, donc ça donnait des scènes hyper drôles où elle le suppliait de coucher avec lui, enfin c'était avec elle. Hein. Et non, il n'y a pas vraiment les femmes dans le film, mais aussi, déjà, il y a plus d'associations pour les femmes dans la rue, heureusement. Et puis aussi, c'est presque un
faux. Je suis désolée, faux interprète, il y a plus de quoi dans
l'association de femmes, enfin pour les femmes de la rue.
Et puis aussi, les femmes dans la rue, c'est un.
Elles sont moins nombreuses.
Heureusement, elles sont moins nombreuses, pour des raisons qui sont hyper intéressantes. Moi, je me dis, est-ce que c'est lié à nos fonctions maternelles? Est-ce qu'une femme se bat plus parce que souvent il y a les enfants et que les femmes sont plus... Je sais pas. Je sais pas pourquoi, en tout cas, il y a moins de femmes dans la rue. Elles sont aussi plus protégées. Mais celles qui sont dans la rue, c'est l'horreur absolue. Parce que pour ne pas être violées par tout le monde, elles sont obligées d'être violées par un seul. Donc, entre guillemets, mais elles choisissent un type qui est censé les protéger, et en fait, en général, il les protège, mais très fort, quoi. Donc, les femmes dans la rue, à un moment donné, je voulais faire une série photo qui s'appellerait La rue avec un E, sur les femmes. Mais bon, là, je pense que déjà...
Tu vas digérer celui-là. Je vais en faire un autre.
Mais là, je fais un autre documentaire. Hier, j'ai menti quand j'ai dit que je faisais un truc plus drôle. Parce que c'est pire. Mais le prochain, celui d'après, le troisième, va être
une comédie marrant. Musicale. On avait dit une comédie musicale avec, sur l'été.
Sur voilà, la minceur.
Et la minceur, ouais. Donc on bosse dessus.
Une série de photos sur les vannes de la rue. Il faut rappeler que dans ta formation de base, tu es photographe. Et passer au Super 8 dans le film, c'est déjà mettre un pas dans le cinéma et après prendre une caméra. Pourquoi tu as choisi de faire plutôt un film que continuer le travail de fond que tu avais déjà amorcé?
Parce que c'est la parole qui m'intéressait en film. C'est un film qui ne ressemble pas du tout à ce que je fais normalement en film. D'habitude, j'ai un travail hyper esthétisant, machin. Et pour ce film, je voulais vraiment pas faire du beau. Je me disais, je voulais pas filmer n'importe comment parce que je déteste qu'on filme les pauvres comme des pauvres. Je trouve ça me fait vomir. Mais en même temps, je voulais pas non plus les filmer, enfin essayer de créer une petite pilule qui soit bien facile à avaler, quoi. Je trouve qu'il y a quand même un problème quand on commence à super esthétiser la pauvreté comme si c'était limite fun d'être pauvre, quoi. Je comprends pas tant politiquement, je trouve que c'est un peu compliqué. Donc j'ai un peu assumé de faire un film pas beau, pourtant ça me faisait violence parce que je déteste quand c'est pas bien cadré, que c'est pas sur pied, etc. Mais je me disais que le film avait besoin de ça en fait, que l'intérêt, le sens du film était ailleurs. Il y a plein de scènes qui me blessent un peu dans mon orgueil, parce qu'elles sont dans le film alors qu'elles sont hyper mal tournées. Par exemple la scène de l'enterrement, quand le monsieur vient, donc j'ai fait un an et demi de bénévolat avec eux, donc toutes les deux semaines, j'allais enterrer, des gens, donc c'est des enterrements qui sont par quatre.
Là, tu évoques l'association des morts de l'âme.
Le collectif des morts de l'âme. Et en fait, quand je suis arrivée, je crois que j'étais tellement mal de filmer un enterrement, en fait. De me dire, je suis en train de filmer l'enterrement de quatre personnes qui ont eu donc quatre vies, qui
n'ont aucune famille,
il n'y a personne, il n'y a pas de famille, mais je me disais, est-ce que moi, même si ma mère était enterrée et qu'il n'y avait personne, est-ce que j'aimerais que quelqu'un soit là avec une caméra, quoi. Du coup, j'étais hyper mal à l'aise, les enterrements sont hyper rapides, et en fait, la seule place que j'arrivais à avoir dans ce tournage, c'était d'être hyper loin, quoi, parce que normalement, il aurait fallu que je me mette face à la tombe, que je filme le type de face. Et en fait, j'arrivais pas du tout à le filmer de face. Donc il y a plein de scènes comme ça où la position est un peu bizarre, le tournage est un peu moche, l'image est un peu moche. Mais je l'assume parce que je pense que c'est plus juste. Et je pense qu'il vaut mieux être juste que beau dans un film.
Ce film, tu l'as réalisé pendant tes études ?
Non.
Après,
je suis une vieille personne. Et j'ai. Non, je.
Comment t'es venue ? Donc, Gérard disait que t'avais commencé par la photo en amateur ou tout de suite, ou t'as fait des études d'image, de photographie, de quel est un peu ton chemin ?
D'abord, j'ai voulu être comédienne.
Alors, attendez, comme princesse un peu,
non ? Oui, un peu. Okay.
Comédienne de comédie, pour avoir de bonnes blagues aussi.
Oui, vous avez vu, c'est gagné.
Hein.
J'ai bien travaillé ça. C'est une vocation frustrée, donc tu te venges.
D'accord. Alors, qu'est-ce que je fais ? Non, quand j'avais 18 ans, je suis partie vivre en Nouvelle-Zélande. J'ai fait une année aux Beaux-Arts, des cours du soir aux Beaux-Arts de Nouvelle-Zélande de photo. Après, j'ai fait de la philo. J'ai fait un doc de philo, après j'ai fait de l'ethnologie. Entre-temps, j'avais fait une école de théâtre, parce que je voulais être comédienne. J'ai beaucoup tourné autour du pot. J'ai toujours voulu faire du cinéma, mais comme je venais d'un milieu populaire, comme on dit, enfin ouvrier, franchement, je ne savais pas comment on faisait, quoi. Je ne savais rien, j'étais bête, enfin, j'étais hyper naïve, je ne savais pas par quel bout prendre le truc. Internet, c'était vraiment le début. Je me rappelle, je voulais faire du cinéma, j'avais commandé à Noël un livre de cinéma et je l'avais recopié en intégrale. Mais tellement que mon désir de faire du cinéma était énorme et qu'en même temps je ne savais pas comment on faisait. Enfin, et du coup je l'avais juste recopié. mais parce qu'il fallait que ça aille dans ce sens,
que tu travailles dessus.
Oui, mais c'était, en plus c'était un film débile. Mes parents, je leur ai demandé un film sur le cinéma, ils m'ont acheté genre le cinéma français de 1934 à 1939. Et c'était juste des résumés de tous les films qui avaient été faits, c'était n'importe quoi.
Par contre, c'est hyper calé sur cette période.
Si on peut devenir heureusement. Donc voilà, donc je voulais faire du cinéma, mais j'y arrivais pas. Donc je suis partie en Nouvelle-Zélande et là. Après, je suis partie en Jordanie parce que dans le cadre de mes études d'ethnologie, j'apprenais l'arabe et je spécialisais sur le Moyen-Orient. Et là, dans le désert, attention, là, j'essaie de raconter des histoires pour un peu noyer le poisson, mais tout ce que je raconte n'est pas très marrant. Dans le désert, alors que j'étais 2 semaines avec des bédouins pour essayer d'apprendre leur dialecte, de comprendre un peu mieux. Là, il y a une jeep qui arrive avec des mecs de Sciences Po. Alors bon, ils arrivent, et donc moi j'étais en train de préparer ma thèse de technologie. Et ils me disent, bah, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, bah, j'essaie d'apprendre leur dialecte et tout, ça faisait 15 jours que j'avais pas pris une douche. Et je leur dis, mais en fait je crois que je veux faire du documentaire, je veux pas faire une thèse d'ethnologie, en fait je suis en train de me dire, là si ma vie ça doit être d'être avec des bédouins comme ça pendant encore 10 ans, c'est sympa, mais bon. Et il y a une nana qui m'a dit, ah mais j'ai une copine qui a fait un master à l'USAS. J'avais jamais entendu parler de ça. Je suis revenue en ville, en Jordanie, voilà. Et là, j'ai tapé sur internet l'USAS et j'ai vu que 15 jours après, c'était des concours. Mon Dieu, il fallait vite écrire un film. J'ai écrit un film n'importe quoi, je savais pas comment on écrit un film, mais je crois que j'étais tellement... tout d'un coup, j'avais l'impression que Dieu avait parlé dans l'oreillette, quoi. J'étais, oh ma fille, mais c'est ça, mais c'est ta chance. J'ai entendu, c'est ta chance. Et là, j'ai envoyé le truc, j'étais prise à la première... étape du concours de l'USAS, et donc je suis revenue en France pour passer à la deuxième à Clandoc. Et j'étais prise. Et alors là, c'était une année de folie intégrale, de bonheur. Vous savez que vous êtes exactement à la place que vous avez, à laquelle vous avez toujours voulu être. Donc voilà, j'ai fait un master de... Donc, oula, je suis longue, hein. Un master de... J'ai fait le master de l'USAS en réalisation documentaire de création. Mon oncle est mort... au début du master, j'écris le film en sortant du master. Mon producteur avait vu mon film de fin d'études sur l'avortement. Et j'aime bien les sujets morts. Et donc il a voulu me produire. J'ai travaillé sur ce film pendant 5 ans, donc il y a eu 1 an de repérage, 3 ans de tournage. J'ai aussi arrêté le tournage parce que je suis tombée enceinte. Et donc, je voulais pas, au-delà de 3 mois, je voulais pas être dans la rue avec une caméra, c'était trop dur, trop long, trop... Je voulais pas imposer ça à ce bébé, j'avais déjà imposé ça à la base de ma famille, je me suis dit, bon, la semaine d'après, parce que la semaine d'avant, elle a déjà bien trinqué, ça va. Donc j'ai eu mon bébé, et pendant ce temps-là, on a monté le film, avec le bébé au sein. Et ensuite, j'ai fait l'atelier scénario de la FEMIS. Mon rêve, c'était quand même de faire de la fiction. Enfin, je n'en ai jamais de documentaire, mais au début, c'était quand même de faire de la fiction. Donc, petit à petit, j'arrive à faire. Enfin, je commence à faire un peu ce dont j'ai envie. Et là, je prépare. Et donc, ce qui est très drôle aussi, c'est que le premier film, ce premier long métrage documentaire, en fait, a accouché du second. Dans le sens où, à la fin d'une projection, à Lille, de ce film, il y a une femme qui est venue pleurer dans mes bras à la fin de la projection en me disant « j'ai une histoire à vous raconter, mais je sais pas. Je voudrais en faire quelque chose, peut-être un film, mais je sais pas comment. » Et on s'est revenu, elle est venue à Bruxelles, et en fait c'est une fille qui s'est faite violer. Et 3 fois, dans la même semaine, par un type qu'elle connaissait. Elle est retournée. Donc c'était hyper interrogeant, enfin, complexe. Et en fait, cette fille, pendant 1 an, je savais pas trop quoi faire de son histoire, et on a vachement parlé. Et en fait, j'ai fini par comprendre à quel point j'avais des idées complètement erronées sur le viol, et à quel point, dès qu'il s'agit de viol, on se demande tout de suite s'il a un amant. Oui. Alors que si tu te fais tirer ton portefeuille et que tu vas au commissariat, personne ne va se dire à quel moment est-ce que tu as vraiment fait tirer son portefeuille. Alors que à chaque fois, c'est la victime.
En avant, ouais. Alors que là, oui. Il n'y avait pas de mini-jupe.
Voilà, exactement. On travaille sur ce film sur le viol, là, sur un viol. Et c'est la fille est hallucinamment, elle est magnifique. Enfin, c'est vraiment une belle personne. Et les mots qu'elle met sur cet événement est hyper beau. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est à quel point en fait un aimant contingent qu'on n'avait pas prévu du tout, qui vous arrive, en fait, peut complètement vous remodeler. Enfin, vous devez vous réinventer complètement. Parce que cette fille, en fait, elle a été diffractée. Elle a mis 10 ans pour porter plainte, 10 ans pour en fait réussir à dire ce que c'était, que cet événement-là. Tellement que ça sortait des fantasmes qu'on a du viol, c'est-à-dire l'ennemi, une ruelle, un type qui vous suit, alors que dans 95% des cas, c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. Et que du coup, ça se joue sur cette ambiguïté-là. C'est quelqu'un que vous connaissez, donc souvent c'est quelqu'un que vous aimez bien, ou quelqu'un avec qui
il y a une connivence.
Et le type joue sur ça, et clac. C'est la culpabilité vient de là aussi.
Et puis c'est la parole de l'un contre l'autre.
Oui, et c'est toujours la parole, c'est ça qui est drôle, c'est toujours la parole de l'un contre l'autre, et c'est toujours la parole de la victime qui est mise en doute. Ouais.
Et j'ai vu dans la présentation que vous avez travaillé sur un film sur l'immigration, né quelque part.
Ah oui, mais vous m'avez googlé comme...
Non, moi c'est...
Il y a une enquête policière,
moi, non ? Non, moi c'est géolocalisé.
Et moi c'est le dossier de presse qui nous a remis par résistance.
Ah mais non, mais on a fait du boulot, attends, je suis en train de tomber.
Ah oui, c'était il y a longtemps.
Ah, c'était il y a longtemps.
C'était petite ou...
Non, c'était il y a longtemps.
Avant de faire tes études.
C'était avant de faire le film, en tout cas.
D'accord. Et tu peux en parler de ce film, un petit peu ?
C'est un montage de photos.
Ah,
j'ai fait des photos. C'est un montage de photos et on entend les gens parler de. C'était un projet qui a.
Ah, un montage sonore.
Oui, vous pouvez les voir, elles sont sur internet. Vous tapez Alex Poukine, vous allez voir, il y a des films en fait sur l'immigration. Enfin, sur des gens qui ont immigré. C'était des gens hyper chouettes. Enfin, voilà. Je n'ai pas continué, il faudrait, mais il y a d'autres choses. Ce film a un peu pris du temps.
Tu as parlé de ton prochain projet. Et après, tu as envie de parler de quoi, en fait ? Là, on rigole avec la comédie musicale, mais après, tu as envie de parler de quoi ? Est-ce que tu as des... On en parlait un peu hier sur le rapport au corps, sur le diktat de la minceur, c'est pour ça qu'on délirait dessus, mais est-ce que tu as des envies ? Parce que maintenant que tu sais comment faire du cinéma, tu as peut-être laissé tomber ou pas ton désir d'être actrice. Mais t'as envie de faire quoi là ? T'as envie de nous parler de quoi ? De nous présenter quoi ? De travailler sur quel sujet en fait ?
Je pense que le prochain, enfin celui après le viol, va être un film vraiment marrant. Là, c'est mon but, c'est de faire un truc hyper drôle. Alors, je pense que sur le corps des femmes, on peut vraiment rigoler parce que quand même c'est une blague, ce qu'on nous impose, comme. Voilà, donc et puis c'est aussi la méconnaissance du corps des uns et du corps des autres. Un monde, enfin voilà, mais après je vais peut-être pas le dire ici parce que je pense que c'est pas du tout le moment.
Pourquoi tu veux pas le dire ici ? Parce que nous on est trop déprimants pour...
Non, mais parce que c'est abusé si je vous dis ce que je vais faire, vous allez penser que j'ai une case.
Ah, non,
vas-y,
nos amis, ils nous en manquent tous. Ah ouais, non, là, tu peux pas nous laisser comme ça.
En fait, je voulais faire un teaser au début, je m'étais dit. Attendez, c'est une histoire hyper. Vous allez être hyper mal à l'aise, je vous le dis direct.
Tu as préparé depuis hier, c'est bon. On s'attend à tout.
Moi, je ne devrais pas le dire.
Tu pars
bien. Je voulais faire une blague. Oui, je pars bientôt. Je voulais faire un film sur les pertes blanches. Parce que, voilà, je vous ai dit, bon, déjà, il y a moitié de la salle qui ne doit pas savoir ce que c'est. Et c'est ça, en fait, qui me faisait rire. Parce que quand j'ai commencé à dire à mes copains, un peu pour rigoler, j'ai fait un film sur les pertes blanches, ils me disaient, les pertes quoi ? Et je me suis aperçu qu'il y avait la moitié de l'humanité qui n'avait aucune idée de
ce que vivait l'autre moitié.
Et puis même, j'ai des copains, on parlait de règles, et j'ai des copains, je me suis aperçu qu'ils ne comprenaient absolument pas ce que c'était. Et du coup, je me suis dit, oh, mais ça serait un super drôle sujet. Et donc, voilà, d'aller dans un rayon de serviettes hygiéniques et puis demander au type, alors à ton avis, ça sert à quoi ça ? Et puis après, j'ai des copines qui ont des moon cups et tout et qui ont commencé en fait, à me raconter des histoires de moon cups, mais complètement délirantes.
Et là aussi, la moitié de la salle ne sait pas ce que c'est.
Heureusement.
Mais on verra dans ton film.
Voilà. Et du coup, je me suis dit, je ferais bien un film là-dessus, un peu bizarre, un peu dégueu.
Voilà. Donc. Ah ben, vivement qu'on te fait un billard, vivement que tu reviennes, parce que là, j'ai hâte de voir. On pourra témoigner.
Oui, voilà, si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à m'écrire.
Et ça sera un documentaire, pas une fiction.
Ah non, 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 en fait, ça sera un documentaire. Je pense que pour que ce soit drôle, il faut que ce soit vrai.
Oui, oui,
donc, voilà.
Moi, je voulais te demander.
J'ai un commentaire sur les prochains projets de.
Alex, en tant que ethnologue, comment toute ta recherche et ta thèse d'ethnologie nourrit ton regard de cinéaste? Quand tu vas parler du corps de la femme, par exemple, tu prends en compte toute l'évolution de la représentation du corps de la femme?
Ben, moi, déjà, je ne suis pas ethnologue. Je n'ai pas de mon diplôme. Je n'ai jamais fait de...
Non,
je ne suis pas jusqu'à la thèse. Je suis en train de préparer mon sujet de thèse.
Donc, tu as un master de...
Pour nous, c'est pareil.
Pour nous, technologues.
Pour le reste, pour nous, technologues, je pense que c'est pas pareil.
On te le valide.
Non, mais arrêtez. Si quelqu'un apprend qu'Alex Poukine dit partout qu'elle est ethnologue, je me...
Et vu tout ce que tu dis à côté, ça va passer à l'as, quelque part.
Elle est ethnologue, elle est spécialiste des personnes.
Donc, t'as un regard. Ouais. C'est ça. Mais peu peuvent s'en vanter, je pense.
Oui, mais je pense que oui, je veux bien mon livre
de. Je pense que t'as une niche, il y a une niche à
l'arrière. Oui, c'est sûr.
T'as un regard quand même.
Ben, je lis beaucoup, en fait. Par exemple, sur le viol, là, je lis l'histoire du viol de Vigarello, je lis tout ce que je trouve sur les SDF, c'était la même chose. J'ai lu Patrick Leclerc. Voilà. C'est façon, à chaque fois, même si ça se voit pas dans un film, il faut un peu comprendre pour moi ce qu'on raconte pour pouvoir, je sais pas, pas dire trop de bêtises, ou c'est juste aussi une sensibilité. Même si je sais que ça me servira à rien, enfin ça servira à rien dans le film. Je vais pas commencer
ça te nourrit ta réflexion.
Mais je vais pas, par exemple, dans l'histoire du viol, enfin dans le film que je fais sur le viol, je vais pas parler de Virginie Despentes, je vais pas parler de Lola Lafon ni de Vigarello, c'est sûr. C'est juste que moi, en fait, ça me rassure aussi de me dire j'ai un bagage théorique suffisant pour ne pas dire trop d'absurdité. Mais moi, ça me rassure, en fait. Donc à chaque fois que je fais un film, il y a un énorme travail, je lis tout ce qui a été fait en ethno, enfin tout ce qui a été fait en encore une fois on va dire quelque chose, hein. Mais beaucoup de trucs qui ont été faits sur le sujet.
Pour avoir une légitimité scientifique en fait, pour
ouais.
avoir une démarche.
Et comme je t'avais dit qu'à un moment donné je voulais faire un film sur les seins, c'est un peu en rapport avec les pertes blanches, mais... et du coup j'ai lu beaucoup, j'ai lu l'histoire des seins, Marie-Hélène Alom, enfin voilà, je m'intéresse beaucoup. À chaque fois, j'essaie de décortiquer un peu ce qui a été écrit. Mais tout, en fait, tout est. Les expos, j'essaie en fait de me dire, voilà. Parce qu'on réinvente pas l'art. Quand on commence un film, on réinvente pas depuis le début, quoi. Moi, je me.
Non, t'ajoutes une pierre.
Oui, donc je pense que c'est hyper important en fait de savoir ce qui a été fait déjà sur le sujet, même en film. Moi, je regarde tous les films qui ont été faits sur le sujet et j'essaie d'être un peu rigoureuse en me disant qu'est-ce que dans ce film j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, et de me dire ce que j'aime, je le réutilise. Ça peut paraître presque du plagiat, mais je me dis qu'en fait, c'est hyper important d'amener sa propre pierre à l'édifice, mais en se disant en fait, c'est presque un travail de groupe.
Mais c'est tout le travail de chercheur, oui. qui s'engage dans un processus commun, oui. Qui va faire valider des connaissances, qui valide des connaissances, qui en infirme d'autres, qui en confirme d'autres. Oui. C'est tout à fait la démarche scientifique. Pour terminer, parce que je pense que ça va bientôt être là, oui. Juste, moi j'aimerais savoir comment tu vis avec tout ça, c'est-à-dire
mal.
Non, comment tu poses à un moment. Tu l'as dit, c'est lourd. En plus, ce film-là qu'on a vu hier, c'est familial. Là, tu vas parler du viol. Là, tu te renseignes beaucoup. Tu pars. Comment, à un moment, on pose, on ferme la porte. On dit, là, je peux plus. Hein, t'as dit à un moment, t'étais enceinte, donc tu voulais pas imposer ça au bébé, donc tu t'es éloignée un peu. Et comment on arrive à, pas on arrive à vivre, c'est pas vrai, mais comment on vit avec ça? C'est-à-dire, on sort jamais indemne d'un travail comme ça. Comme n'importe quel travail de recherche, on s'en parlait parce qu'on a été changé, mais comment tu l'intègres?
peu tu disais comment nous on a intégré le film et comment toi tu intègres tout ce travail là d'immersion. Et est-ce que c'est le quotidien, c'est-à-dire que tu es immergé dans quelque chose tout le temps et ça s'ajoute, ou est-ce que parfois tu arrives à tu fermes la porte et comment dans ces cas-là?
Déjà je pense que je l'intègre comme on intègre tous nos vies. Après, moi, j'ai tourné 3 ans dans la rue, mais finalement, le soir, j'avais une caméra à 5000 boules, et je rentrais chez moi le soir, et c'était, c'était tout confort. Quoi. Donc, j'ai tourné 3 ans dans la rue, mais j'ai pas essayé de faire ma kamikaze. Moi, je trouve que ça hyper déplacé les gens qui vous font croire qu'ils ont passé 3 ans dans la rue.
Qui ont dormi là.
Quand vous avez une carte bleue, de toute façon, il y a un moment donné où vous...
Non, pas être crédible.
Oui, voilà, c'est pas crédible du tout. Donc, j'ai jamais. J'ai déjà proposé par exemple à Joe de venir dormir à la maison, il n'a pas voulu. Après, j'ai toujours été claire, je ne les ai pas payés. Alors que la nana qui travaille sur mon film sur le viol, comme on écrit le film à deux, je la paye.
C'est pas la même démarche.
Oui, c'est pas la même démarche, mais moi j'ai toujours été très claire sur le fait, par exemple, que je ne les payais pas. Enfin, j'avais aussi la position dans ce film était claire. À la fois, je les aimais énormément, je passais beaucoup de temps avec eux, même sans caméra, mais en même temps, c'était pas j'étais là pour faire un film. Et ça aide. Mais par exemple, quand je me suis mariée pendant le tournage, je sais que Joe voulait venir au mariage. Et je ne l'ai pas invité. Parce que j'avais peur, en fait, après c'est d'autres choses, mais j'avais peur par exemple pour mon père. J'avais peur que mon père se retrouve face à ce type hyper marqué par la rue et que ça le rappelle son frère. Mais j'ai l'impression que je traverse mes films comme on traverse tous nos vies. Quoi. Enfin, je pense qu'il y a des choses qui vous arrivent qui sont bien, bien pires que.
Oui, mais quand tu disais par exemple à la fin d'une projection, il y a quelqu'un qui vient te pleurer dans les bras et qui te raconte son histoire, ça provoque ça aussi. Et tu peux être éponge, mais tu peux essorer après, tu peux. Voilà. Et après, c'est chacun. Comme tu dis, c'est vrai que c'est la capacité de chacun et le caractère de chacun à encaisser ou pas. Quoi. Mais c'est vrai que c'est. Le peu qu'on a échangé, ça. Voilà, ça doit nourrir, bien sûr.
Oui, mais je pense que c'est pour ça qu'on fait du cinéma. Ouais. C'est une fois, c'est à l'école, à l'USAS, quelqu'un m'avait dit, c'était une citation de Serge Danet, qui avait dit, on ne fait pas du cinéma pour améliorer le langage cinématographique, on fait du cinéma pour être moins seul. Et je pense qu'en effet, moi j'ai l'impression de faire du cinéma pour être moins seul. Enfin, j'en ai rien à faire que de faire semblant, d'être mince, jolie, sympa, je sais pas quoi... moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce que les gens vivent de véritable dans leur vie. Enfin, j'ai l'impression que ce qu'on vit de plus fort dans nos vies, on le cache tout le temps. Il y a une espèce de truc où les gens, j'ai l'impression qu'ils vivent des trucs hallucinants, mais qu'on le sait que 4 fois dans nos vies. Quoi. Ce que les gens vivent vraiment et qu'on est toujours en train de cacher, ce qui fait qu'on est intéressant, touchant. Enfin,
Et unique.
Et en fait, en faisant du cinéma, j'ai l'impression que, d'une certaine façon, même si c'est comme des fois hardcore à recevoir, je touche quand même du doigt quelque chose qui fait qu'on est plus que des chiens. Même si j'aime beaucoup les chiens. Et je sais pas. Non,
je pense que Maëlle, on va te réinviter. On va te réinviter pour
un film sur les pertes blanches.
Tout à fait.
Jamais quelqu'un a une histoire de pertes blanches. Vous avez Alex Poutkin ou vous avez contact.
À gmail.com.
On va envoyer aux copines et on va se faire.
Voilà.
Moi, Gérard. Je voudrais ajouter quelque chose. Je sais qu'on ne va pas conclure parce que tu nous as ouvert tellement de pistes de réflexion et de prise de connaissance de la réalité qui nous entoure, souvent que l'on ne voit pas assez clairement. Ton film a été proposé dans l'atelier cinéma que nous animons tous les ans à la maison d'arrêt, le bâtiment qui nous est voisin. Avec Marlène, on a proposé toute une série de films. Et au moment où on a visionné ensemble Dormir dans les pierres, au titre poétique qui donne une autre dimension aussi, il y a eu des discussions et des témoignages très riches parce que certaines des détenues qui ont vu le film savent très bien que tu parlais d'eux aussi. Hein, ils ont cette expérience-là. Et de suite, il y a eu une argumentation aussi sur les politiques sociales menées pour aider les gens de la rue, sur les défaillances. Alors c'est un aspect que tu n'abordes pas dans ton film, mais pourtant c'est au cœur de tous tes films, de toutes tes démarches. C'est à la fois une réflexion très sociale et très politique. Voilà, on est dans le cadre du festival Résistance, et c'est pas uniquement pour l'histoire que tu nous as proposée que ça a intéressé sûrement le comité, mais pour cette dimension politique forte. Comment tu l'abordes, justement, le domaine politique?
Je vous renvoie à l'article. Comment je l'aborde, ben, j'ai l'impression que moi je travaille surtout quand même sur la marge, enfin sur la marginalité, enfin sur les gens qui. Comment je l'aborde? Je l'aborde pas frontalement, ça c'est sûr.
Oui, oui.
Je l'aborde par le biais de l'intime. Moi ce qui m'intéresse c'est l'empreinte du politique dans l'intime. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Mais je l'aborde pas directement. En effet, par exemple, Nanterre. Quand je suis allée filmer à Nanterre pour dormir, c'était tellement horrible. À l'époque, j'étais au RSA. À 2h du mat, j'ai pris un taxi pour entrer de Nanterre à Paris. Je me suis dit, je vais me tuer si je reste une minute de plus dans cet endroit. Et donc, je suis retournée quand même le lendemain pour filmer, avec un ingé son cette fois-ci. Mais du coup, dans le film, en fait, il n'y a pas grand-chose sur Nanterre. Parce que je n'arrivais même pas à le filmer, tellement que c'était terrible. Donc voilà, ça c'est aussi un des angles morts de mon film, c'est les institutions. J'essayais de montrer en fait la violence du truc. Quand le film s'ouvre sur la quatrième séquence du film, la troisième séquence du film, c'est une femme qui hurle parce qu'elle ne veut pas aller à Nanterre.
Justement, ça parle très politiquement.
Et moi j'ai voulu plutôt l'évoquer que l'expliquer. À un moment donné, elle dit « c'est tous des violeurs et des enculés ». Et à un moment donné, dans le film, il y avait en fait, on voyait le type. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il a fallu choisir entre un film social et politique et un film plutôt intime, et entre guillemets, avec tous les guillemets, plutôt métaphysique, disons. Mais à un moment donné, on voyait à 7h du mat, le mec qui ouvrait toutes les portes de Nanterre. Donc les gens sont enfermés à l'intérieur quand même.
Oui, comme la maison d'arrêt.
Il ouvrait toutes les portes et donc on voyait les gens qui sortaient et qui à 7h30 doivent dégager de Nanterre. Donc ça veut dire que dans le RER, parce qu'il les amène à Nanterre mais il ne les ramène pas sur Paris. Et bien sûr, on ne peut pas faire la manche à Nanterre, surtout qu'il y a quand même 300 personnes qui sortent du centre. Donc vous imaginez 300 personnes qui font la manche à Nanterre. Les gens de Nanterre, ils sont gentils, mais on fait. Donc tout le monde repart à Paris. Donc le RER, le matin, c'est pour des miracles. Et tout ça, je ne l'ai pas filmé aussi parce que ce que je disais hier, il y a un moment donné la violence, enfin, il faut savoir quelle dose de violence on met dans un film. Et je pense que si j'avais fait un film politique, ça aurait été d'une violence.
Mais c'est à nous à l'interpréter, justement, ces cris de cette femme. Ça dit bien que des lieux prévus, des dispositifs prévus, des aides votées à l'Assemblée nationale, etc., dans les institutions où nous avons nos élus, c'est fait pour des gens, mais pas avec les gens selon leurs besoins.
Tout le monde s'en fout. C'est horrible. Et même les gens qui essayent de faire quelque chose, je veux dire, il y a tellement de verrous partout que les gens, on voit, il y a des gens qui se battent, qui essayent d'aider, mais c'est hyper dur d'aider quand structurellement c'est impossible en fait. Tout est fait pour vous mettre des bâtons dans la roue. Et après, je pourrais parler des heures des maraudeurs par exemple, de tout ce qui est fait pour essayer d'aider les SDF. Il y a des aberrations. J'aurais pu faire un film comique sur les maraudes. Tellement,
t'as une idée.
J'ai plein d'idées. Ah ouais, mais là, je crois qu'il y a Barbara V qui va être en conférence de presse bientôt.
Oui, on va commencer à la conférence de presse.
Je vous donne vite une petite anecdote pour finir sur une note gay comme d'habitude.
Ouais, un petit jingle.
Et la prochaine fois, une chanson.
Voilà. j'adore. Chanteuse, c'était au début, c'était chanteuse puis comédienne.
On va faire un film Les Vies d'Alex Kikin.
Voilà, je vais chanter Jean-Jacques Goldman, envoie-le-moi.
Après, ah, la, c'est la, la chance, prochaine. Ok, on a un programme. Ça, c'est bien.
Par exemple, une fois, j'avais une super séquence qu'on n'a pas mise malheureusement, parce que elle, ça ne marchait pas dans le film. Mais... Donc, il y a quatre nanas qui arrivent, des maraudeuses, qui arrivent du 15e arrondissement de Paris, donc c'est très chic. Et elles avaient décidé, donc, elles voient que Joe lit Goethe. Oh, c'est chouette, et donc vous lisez en allemand. Déjà, il était 1h du mat, lui il était à moitié en train de s'endormir, elle le réveille pour lui parler ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est un truc hyper marrant, c'est qu'il se faisait réveiller à minuit par la Croix-Rouge, à 1h par le Secours Populaire, à 2h par le Secours Catholique, à 4h par la maraude du 11e arrondissement, à 5h par les flics, pour aller voir s'il était toujours vivant. Et à un moment donné, il disait, mais. Et puis à chaque fois, il faisait un petit café. Et lui, il disait, mais en fait, vous imaginez si quelqu'un venait chez vous et vous réveillait toutes les heures pour vous proposer un petit café? Il disait, mais moi, la nuit, j'essaye de dormir, déjà j'ai du mal à dormir, alors avec du café, enfin, si je buvais à chaque fois le café que vous me proposez, enfin, je veux dire, je ne dormirais plus ni le jour ni la nuit. Quoi. Et il avait cette phrase hyper belle, à un moment donné, il se tourne vers moi et me dit, le problème quand tu vis dans la rue, c'est que tu n'as pas de clé.
En effet.
Et là, bien sûr, la caméra, enfin, ma cassette s'est arrêtée au moment de clé. Et donc, on ne pouvait pas utiliser le plan parce qu'il n'y avait pas la seconde d'après. On a essayé de doubler le plan à l'envers, à l'endroit. Bref. Et donc, il y a ces maraudeuses qui venaient et qui commençaient à parler à Joe. En lui disant oh, donc vous lisez en allemand, c'est chouette, c'est très très chouette. Et il dit bah oui, je suis allemand, mais je parle de moins en moins bien allemand parce que je parle surtout français ou anglais. Il me disait oh, mais il y a plein de touristes allemands, mais vous devriez aller leur parler, ce serait chouette. Et lui disait, mais en fait, je crois que les touristes allemands qui viennent à Paris n'ont pas forcément envie de parler avec un clochard. Oh ben non, enfin je. Après, elle était là, et donc vous lisez beaucoup, hein. Ben oui, j'essaie, mais bon, c'est un peu cher, donc j'essaie de récupérer des bouquins. Oh, mais inscrivez-vous à la bibliothèque. En fait, j'ai pas d'adresse, pour s'inscrire à la bibliothèque, il faut une adresse. Ah oui, oui, vous connaissez Fred Vargas. Donc, c'était l'horreur absolue, elle n'avait rien à faire là, elle n'avait rien à... Enfin, je veux dire, je comprends ce truc, on est hyper mal à l'aise, qu'est-ce que vous voulez dire à quelqu'un qui... Enfin, on n'est pas dans le même rapport, hein. il y a une espèce de... Il y a un fossé entre... Voilà. Et c'était tous les jours, il y avait des trucs comme ça. Des gens qui venaient et qui essayaient de faire salon littéraire, ou sinon qui... Enfin, ouais, il y avait une grand-mère... Enfin, un jour, il y avait un mec qui leur avait amené un puzzle de 100 000 pièces. Et donc, Joe, lui, et le type, lui, donc, lui donne le puzzle de 5 000 pièces à Joe et lui dit « J'ai mis 4 mois pour le faire. 4 mois !» Et Joe lui dit « Mais si toi, t'as mis 4 mois pour le faire chez toi, dans ton salon, toi, tu penses que moi, je vais mettre combien de temps pour le faire sur le trottoir, là, comme ça comme ça, je vais perdre des pièces, ou il va y avoir un problème. » Enfin, il y avait que des trucs comme ça. Un jour, il y a un mec qui leur a apporté 10 kilos de patates. Cru, hein. Et hyper gentil, hyper content de son idée de 10 kilos de patates. Et il y a Barthes qui me regarde, il fait, mais en termes de cuisson, de... Enfin, tu crois que je suis un lapin ou que je vais m'attaquer à ma patate comme ça alors j'ai pas de dents déjà au départ, quoi. Enfin, il y a eu plein d'histoires comme ça. Après, il y a Barthes à la fin, il s'est fait refaire les dents, donc il avait des dents. Et alors, il arrêtait pas de se mordre la langue. Et comme il faisait hyper froid, il claquait des dents. Et il me disait, oh là là, ce bruit des claquements de dents, c'est tellement beau. Ça fait tellement d'années que je n'ai pas entendu des dents claquer.
On a tout décalé.
Oui, tout était décalé et était très drôle.
Ouais. Par le décalage. Ouais. Alex, on va arrêter de t'exploiter. En tout cas, c'était de torturer. Et de torturer ceux qui sont sur la tête aussi. En tout cas, c'était un réel plaisir de te rencontrer et de te recevoir ici. Voilà, le film était super et en plus on a eu le bonus avec ta présence et vraiment merci beaucoup.
Merci à vous.